Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago, numéro 1272, en ce samedi 29 mars. J'espère que tout le monde va bien. Tout le blues actuel avec un petit œil dans le rétro. Chaque samedi, c'est Sweet Home Chicago, Marc Loison, avec vous pour 2 heures de blues sur Radio 666. Dans ce 1272e numéro en première heure, un dernier extrait du disque du mois, Prière païenne, signé du bordelais Khalid Joe. Il sera d'ailleurs l'invité de l'émission le 26 avril. L'essentiel de cette première heure sera constitué d'un fabuleux 6e Blues Héritage co-animé avec Jacques Perrotte. Pour ce numéro, nous nous sommes adjoints les précieux services de la référence en culture musicale de notre région normande dans la personne de notre ami Jean-Christophe Panuco, chez qui j'ai pu puiser quelques éléments probants de réponse à notre question saugrenue. Bob Dylan, est-ce que c'est du blues? Sans rien spoiler, la réponse est évidemment oui, et c'est en 50 minutes et 28 chansons que nous vous en apporterons la preuve. L'occasion aussi de se replonger dans le fabuleux film de James Mangold, Perfect Unknown, en français, Imparfait Inconnu, où brille Timothée Chalamet en Bob Dylan, Edward Norton en Pete Seeger, Scott McNairy en Woody Guthrie, Monica Barbaro en Joan Baez, Boyd Holbrook en Johnny Cash, Norbert Leobuds en Alan Lomax, et carrément Big Bill Morganfield himself, l'un des fils de Muddy Waters en Jesse Moffat. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu ce film, je vous conseille de réparer cet oubli illico en privilégiant bien sûr la version originale sous-titrée. C'est en tout cas un grand bonheur non dissimulé de se replonger avec Jacques Perrotte et Jean-Christophe Panuco dans l'univers sidéral, multi-art, multi-instrumentiste, génial, engagé, fantasque et immense, du seul artiste songwriter au monde à avoir obtenu en 2016 le prix Nobel de littérature pour l'ensemble de son œuvre, l'unique et irremplaçable Bob Dylan, toujours actif sur disque et sur scène à bientôt 84 ans. Et puis pour la rubrique Les Incontournables, à la demande de Jean Kenyek, nous terminerons cette première heure sur un album mythique du père du blues moderne de l'immédiate après-guerre, le grand Muddy Waters dans l'album Fathers and Sons, sorti chez Chess en août 1969. Dans l'immédiat, on démarre tout de suite avec Khalid Joe, ça s'appelle Que me pardonnent tous les saints.
J'ai vendu mon âme au diable, j'irai pourrir en enfer. Je suivrai mes désirs coupables, je mettrai ma vie à l'envers. D'autres l'ont fait pour la musique, moi ce sera pour une étreinte, pour une croupe mirifique, à me faire oublier mes plaintes. Deux adorables seins, une belle paire de fesses et de très très jolis yeux. Que me pardonnent tous les saints. Si je vais plus à la messe, j'ai plus le temps de croire en Dieu. Non, plus le temps de croire en Dieu. Quand ma jeunesse sera passée, que je ne pourrai plus dresser toutes mes envies insatiables, je dirai alors adieu au diable. Il est bien temps quand on est vieux de soudain penser au bon Dieu. Je trouverai un vieux missel, je chanterai tous les gospels. Deux adorables saints, une belle paire de fesses et de très, très jolis yeux. Que me pardonnent tous les saints, si je vais plus à la messe, j'ai plus le temps de croire en Dieu. Non, plus le temps de croire en Dieu. Je suivrai du coin des yeux, avec un air toujours envieux, ces silhouettes angéliques, elles m'ont rendu si diabolique. Et en chantant pour l'éternel, je lèverai pas les yeux au ciel, si j'aperçois sur mon chemin une jolie fleur de jasmin. Deux adorables seins, une belle paire de fesses et de très très jolis yeux. Pardonne tous les saints, si je vais plus à la messe, j'ai plus le temps de croire en Dieu. Non, plus le temps de croire en Dieu. j'ai vendu mon âme au diable. C'était bien pour le paradis, pour ces moments inoubliables dont le bon Dieu m'a fait crédit. Si j'ai vendu mon âme au diable, j'ai gardé tous mes souvenirs. Pour moi, ils sont impérissables. La mort, je peux la voir venir. Deux adorables seins, une belle paire de fesses et de très, très jolis yeux. Que pardonnent tous les saints si je vais plus à la messe. J'ai plus le temps de croire en Dieu. Non, plus le temps de croire en Dieu. Alléluia.
Cadillac Joe, extrait de Prière païenne, qui aura été disque du mois pendant tout le mois de mars pour Sweet Home Chicago et qu'on va retrouver en interview dans la deuxième heure de l'émission du 26 avril. Voici maintenant Blues Héritage avec Jean-Christophe Panicaud, avec Jacques Perrotte et notre ami Bob Dylan. Blues Héritage.
Marc Loison.
Jacques Perrotte. Chaque dernier samedi du mois dans Sweet Home Chicago.
Sur Radio 666.
Oh yeah!
Tout se mesure comme un cri dans la nuit.
Blues Héritage aujourd'hui avec Jacques Perrotte, bien sûr. Bonjour Jacques, comment vas-tu?
Bonjour Marc Loison.
Ah, très heureux de te retrouver ici comme chaque dernier samedi du mois dans Sweet Home Chicago et puis sur toutes les ondes maintenant. Hein,
ça passe vite les mois avec toi parce que à chaque fois je me dis on est déjà là. Mais
on est déjà là.
C'est fou. J'ai l'impression que plus on vieillit, plus le temps s'accélère.
On est bien d'accord. Et tu verras quand tu auras mon âge, c'est encore pire.
Et peut-être, et peut-être que c'est ce que ressent un monsieur comme Bob Dylan à 83 ans. Je me dit qu'il continue à faire plein de concerts, qu'il va faire des petites villes là, aux États-Unis.
C'est vrai.
Alors on sait qu'il est parfois infect, parfois il est formidable en concert, ça dépend. Il est de l'humeur qu'il a envie d'être, il peut se le permettre peut-être. En tout cas, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé puisqu'il a fait 55 albums et je me dis, est-ce qu'il voit le temps passer ce gars-là?
Pas sûr. tu l'as vu Bob Dylan, toi, en concert, Jacques?
Oui, en 2019, au Grand Rex. C'était un concert où il était tout le temps assis derrière son orgue. Je sais que beaucoup de gens étaient déçus parce qu'il n'a pas fait les tubes à la guitare, mais il joue plus de guitare. Vraiment.
Ouais.
Alors il dit pas bonjour, il dit pas au revoir. Moi j'ai trouvé le concert merveilleux, je trouve qu'il chante de mieux en mieux depuis qu'il a fait son album style Frank Sinatra, qu'il a pris des crampes, enfin je sais pas en fait. En tout cas, c'est quelqu'un qui, pour moi, qui est la qualité principale de Bob Dylan, c'est la liberté.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Oui, c'est vrai, c'est un peu ce qu'on disait il n'y a pas très longtemps, la liberté, ça peut être aussi l'autre nom de Bob Dylan. Je disais ça à propos de quelqu'un d'autre, à propos de Little Bob. C'est pas du tout la même personnalité, bien entendu, mais il y a des gens comme ça qui sont libres comme l'air, qui font vraiment ce qu'ils veulent. On s'en est rendu compte dans le film Un parfait inconnu.
Ah, alors là.
Perfect Unknown. On va en parler de ça, Jacques.
Hein. Mais surtout que toi, tu l'as vu je sais pas combien de fois.
Ouais.
Moi, j'ai adoré ce film. Vraiment, j'ai trouvé que d'abord, la prestation de Timothée Chalamet, j'ai entendu des critiques dire oh, ce garçon est joli, mais franchement, enfin, c'est faire fi de l'excellent travail de ce garçon, aussi bien parce qu'il chante les chansons, il les joue à la guitare, il interprète ce Dylan des années 60, parce que c'est le tout début de Dylan.
Et oui, 50 cours pour pouvoir se mettre à ce niveau-là. Et puis la prestation de l'actrice qui joue John Baez est extraordinaire aussi.
Show me the prison. so many reasons why there, but for fortune go you or I. Show me the whiskey stains on the floor. Show me the drunkard as he stumbles out the door. And I'll show you a young man with so many reasons why that there but for fortune go you or I.
Et celui qui fait Pete Seeger, c'est pareil.
Et Edward Norton, ouais, magnifique.
Voilà, et on a beaucoup de plaisir à retrouver des personnages qu'on n'a pas forcément vus à la télé, mais dont on a entendu parler parce qu'on a lu leur nom sur des pochettes de disques ou dans des bouquins. Et puis, c'est le cas, par exemple, pour un garçon qui n'existe pas, qui est en fait une espèce de synthèse de tous les bluesmen du sud des États-Unis, qu'on appelle Monsieur Moffett, qui est joué, incarné par Big Bill Morganfield, qui n'est autre que le propre fils de Muddy Waters. Just like a bird without its feathers, baby. Just like a bird without its feathers, baby. You know I'm lost without your love. Will I need your loving, baby? Just like an angel need heaven above. Ça, c'est, je trouve ça génial, quoi.
C'est ça que j'adore quand je viens avec Marc Loison, c'est toute sa culture sur le blues. Et moi, j'apprends plein de choses, donc écoute, ça, j'adore.
Jacques, la culture, je vais te faire écouter quelqu'un chez qui je suis allé il n'y a pas très longtemps. Tu connais un certain Jean-Christophe Panico, Jacques, forcément.
Mais formidable, avec Laurent Choubras, ils ont fait un double album formidable de chansons rock, blues, folk, donc top. Et qu'est-ce qu'il raconte?
Eh ben, Jean-Christophe Panico, je suis allé chez lui parce qu'on s'est dit que c'était pas plus mal.
Ah, monsieur est invité.
Mais oui, d'accord. Parce qu'en fait, dans son salon, on va pas tout raconter, il y a des choses sympas. Et puis surtout, il y a beaucoup de musique, il y a des bouquins. Bon, c'était vraiment l'endroit idéal. Je te fais écouter un petit bout de cette entrevue, puis on va réagir juste derrière. Voilà, chez Jean-Christophe Panico.
Alors ça, c'est la dernière biographie qui est sortie de Dylan, en 2 tomes.
Alors, la double vie de Bob Dylan.
Ouais, par quelqu'un qui s'appelle Clinton Ellin, qui est un auteur qui avait déjà fait un bouquin sur Bob Dylan dans les années 80 qui s'appelait Beyond the Shades, et qui a pour particularité d'avoir une méticulosité complètement universitaire, si tu veux. Donc, il source tout ce qu'il dit, il renseigne tout ce qu'il dit, il a interviewé plein de monde et tout. Alors ça, c'est drôle parce que immédiatement, quand tu lis ça, c'est très intéressant. Ça, c'est la première partie qui est généralement très renseignée. C'est le début de Dylan jusqu'en 66.
Donc, chronologiquement.
Chronologiquement, c'est l'âge d'or, on va dire. Voilà. Ouais. Et là, c'est la deuxième partie. Et là, c'est très intéressant parce qu'il te couvre Dylan de 66 à 2021. Mmh. Et là, j'ai appris des millions de trucs. Alors, il peut être assez antipathique, ce garçon, parce que au début, il commence à te dire, dans les premières pages, bon, tout ce que vous avez lu jusqu'à maintenant, c'est de la merde. Donc, tel auteur, il a jamais rencontré personne. Tel auteur, il a oublié ça. Tel auteur, il en dit. Alors, immédiatement, le mec, t'es antipathique parce que tu te dis, c'est qui ce mec qui a un boulard énorme et qui t'explique comment on devrait écrire un bouquin sur Dylan. Sauf que quand tu lis derrière, effectivement, moi qui ai lu tous les, je crois que j'ai lu toutes les bios qui peuvent exister en anglais sur Dylan, je les ai à peu près toutes, et j'ai pas lu toutes les françaises, mais par contre les américaines, je les ai toutes lues. Et en fait, t'apprends des trucs tout au long du machin, et c'est hyper sourcé avec des témoignages de première main. Il a compulsé tous les journaux de l'époque. Enfin, c'est un boulot de romain, et t'apprends des millions de choses, et c'est très bien. Alors bref, c'est quoi ta question? C'est le blues dans... Alors c'est pas compliqué. Moi, je serais tenté de te dire que si tu connais Dylan, si tu connais la vie de Dylan, si tu connais toute l'œuvre de Dylan, tu te rends compte que la question, en fait, ne se pose même pas. C'est-à-dire que Dylan, c'est pas que le blues est une influence. Dylan, il est là par le blues, il est là pour le blues, il respire le blues, et en réalité, tu te rends compte que ses racines profondes et durables, c'est quasi exclusivement la musique blues. Unlike most of the songs nowadays are being written uptown in Tin Pan Alley, as most of the folk songs come from nowadays, this is a song, this wasn't written up there. This was written somewhere down in the United States. Well, the Lone Ranger and Tonto, they're riding down the line, fixing everybody's troubles, everybody except mine. Someone must have told them that I was doing fine. Il a commencé la musique, il t'explique lui-même, hein, son premier choc musical, il est arrivé dans une maison quand il était môme, dans le froid du Minnesota, ses parents venaient d'emménager, et c'était une vieille maison poussiéreuse où restaient quelques meubles, et dans les quelques meubles t'avais un espèce d'électrophone. Sur l'électrophone, t'avais What Would You Give in Exchange for Your Soul, qui était une chanson de Bill Monroe. Et donc il a mis ça, il a dit, quand j'ai entendu ça, j'ai eu l'impression d'être dans un autre monde. Après il a découvert Hank Williams, donc c'est plutôt des influences bluegrass country. Mm-hmm. Mais après il s'est intéressé au rock'n'roll, donc il a été vraiment dans Little Richard et tout, il a commencé comme ça, et quand il a commencé à s'intéresser à la musique folk, en fait, en arrivant à New York, il a découvert des musicologistes, comme il y avait beaucoup hein, dans tout le cirque universitaire, etc. Et il s'est mis à découvrir Led Billy, Big Bill Bransey, Big Joe Williams, Robert Johnson. Il t'explique qu'un des moments tournants de sa vie, c'est quand il a découvert l'album de Robert Johnson, Skip James, les enregistrements de la librairie du Congrès, etc. I got the worried blues, God, and I got the worried blues. I got the worried blues. I got the worried blues. Lord, I'm going where I've never been before. Et en fait, si t'écoutes, si tu lis un peu sur Dylan, et même si t'écoutes les enregistrements de Dylan avant les enregistrements officiels, parce que ça existe aussi, maintenant c'est documenté, c'est des vieilles émissions de radio du début des années 60, c'est des enregistrements qui ont été faits chez des amis, des enregistrements live, tu trouves des versions hallucinantes de Baby Please Don't Go, des versions hallucinantes de Hard Time Killing Floor Blues, enfin, c'est extrêmement documenté, et tu te rends compte qu'en fait, bah, finalement, son influence, ses influences principales sont des bluesmen. I could hop a train ride. And if I reach Atlanta, nowhere to go. Honey, make me a pallet on your floor. Alors, au milieu de tout ça, il a percuté Woody Guthrie, et en percutant Woody Guthrie, il s'est rendu compte de la force que pouvait avoir des airs folk traditionnels, une forme folk traditionnelle, qui pouvait aussi véhiculer un message, qui racontait l'histoire des temps, qui pouvait raconter les problèmes politiques du jour, etc. Et de cette base-là, lui, il s'en est servi pour faire le terreau sur lequel il a cultivé ce qui lui a permis de démarrer dans sa carrière, c'est-à-dire les topical songs, quoi, les chansons un peu actuelles. Dans ses premiers albums, si tu prends son tout premier album, t'as une version de See That My Grave Is Kept Clean, Blind Lemon Jefferson, que j'ai déjà joué chez toi d'ailleurs. There's one kind of favor I'll ask of you. Well, there's one kind of favor I'll ask of you. There's just one kind of favor I'll ask of you. You can't see that my grave's kept clean. T'as des versions de Fixing to Die, de Booker White, donc c'est des trucs de bluesman. Feeling funny in my mind, Lord, I believe I'm fixing to die. Feeling funny in my mind, Lord, I believe I'm fixing to die. Well, I don't mind dying, but I hate to leave my children crying. Well, I go yonder to that burying ground. Look over yonder to that burying ground. Sure seems lonesome, Lord, when the sun goes down.
Voilà, c'est la première intervention de notre ami Jean-Christophe Panicaud. D'ailleurs, un petit message aux auditeurs. Si jamais un jour vous n'êtes plus connecté et vous ne pouvez plus accéder à Wikipédia, ben vous téléphonez à Jean-Christophe Panicaud.
C'est ça, c'est la Bible. Non, mais c'est passionnant. D'abord, il est passionné, il connaît tout. Il a vivement lu, comme il dit, tous les livres sur Dylan. C'est intéressant parce qu'il parle de Woody Guthrie, notamment. Et le film, donc, Un parfait inconnu, ça démarre sur cette rencontre, cette envie que Dylan a de rencontrer Woody Guthrie, qui à l'époque est malheureusement malade. Il a une maladie dégénérative, et on sent qu'il va y avoir effectivement il joue pour la première fois une chanson devant son maître,
une chanson pour Woody Guthrie qui figure dans son album.
Voilà, qui est un hommage à Woody Guthrie. I'm out here a thousand miles from my home. I'm walking the road of the men who've gone down. I'm seeing a new world of the people and things. You're paupers and peasants and princes and kings.
Ça, c'est, il y a beaucoup de moments émouvants dans ce film. Ah, alors ouais, celui-là, il a une
j'en ai les poils, là. Tu vois, j'en ai les poils.
Mais pareil.
Et donc, on sent que c'est. D'abord, il faut avoir le courage d'aller voir son héros, de jouer une chanson qui lui est consacrée devant lui. Et on voit.
Et
que...
devant son garde-malade, Pete Seeger aussi.
Alors, Pete Seeger, qui est joué par Edward Norton. Et vous découvrirez dans le film à quel point Pete Seeger est fondamental dans l'histoire de Bob Dylan, parce que c'est lui qui le pousse carrément à monter sur scène. Je trouve que cette séquence-là est. Toi, Woody Guthrie, pour toi, c'est quelqu'un d'important.
Oui, bien sûr. Et puis, en plus, il a une extrême longévité, un petit peu à l'image de Hugo Frey actuellement, 95 ans. Il a joué jusqu'à la fin. Il y a eu des gens comme Bruce Springsteen qui lui ont rendu un hommage vibrant il n'y a pas encore si longtemps. Woody Guthrie, c'est vraiment quelqu'un d'important.
This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me.
Alors, Jean-Christophe n'en parle pas tellement, il évoque plutôt la question que je lui posais, c'est-à-dire, c'est quoi les rapports entre Bob Dylan et le blues? Est-ce que Bob Dylan, c'est du blues? Pour lui, il n'y a absolument aucun doute.
Ah oui, c'est très clair. De toute façon, il vient de faire toute l'émission. Enfin, je veux dire, il a donné tous les arguments, Jean-Christophe, pour dire que c'est totalement justifié que nous fassions aujourd'hui place à Bob Dylan, au-delà du film, au-delà des 83 ans, au-delà des 55 albums. Bob Dylan, c'est vraiment l'esprit du blues blanc. Alors, blues blanc, forcément. C'est toujours ce qu'on a dit, hein. C'est-à-dire que le blues est né avec les Noirs et les Blancs l'ont-ils récupéré ou au contraire ont-ils creusé avec les origines ce courant pour en faire quelque chose d'ultra populaire?
Peut-être certains disent-ils qu'il a été sublimé par l'approche des Blancs. En tout cas, cette musique, je pense qu'elle n'existerait plus en tant que telle s'il n'y avait pas eu des gens comme Elvis Presley ou Bob Dylan, par exemple.
Oui, mais je ne pense pas que c'est pas sûr que ça a été sublimé par les Blancs. Je pense que les Blancs ont aimé cette musique et ont eu envie de la faire partager au plus grand nombre. Alors, peut-être qu'il y a dedans des affairistes et comme partout, mais je crois qu'il y a un énorme respect et je pense pas qu'on soit dans un domaine où le racisme intervient. Je pense qu'il y a vraiment une musique qui est blues créée par les Noirs, ensuite les Blancs l'ont joué et ensuite tout ça se mélange et je trouve ça plutôt chouette.
Mais même déjà à l'époque, dans les années 60, comme un peu plus tard on voit dans le film quand Mike Bluefield vient rejoindre Bob Dylan à l'occasion de son passage à l'électrique, c'est un groupe multicoloré qui est là. Et donc ça, c'est vrai que c'est un débat qu'on pourrait avoir pratiquement dans chaque blues héritage. Est-ce que un tel est vraiment légitime dans le fait de faire cette musique-là? Moi, je suis persuadé que oui, mais ça se fait des années. Je pense que quelque part, il y a des gens qui diront toujours non, même dans des années. Ça, c'est pas un problème. L'important, c'est aussi de profiter de cette musique. C'est aussi d'être capable d'en retirer la quintessence. Le blues, c'est la naissance de tout le reste.
C'est la naissance. On a toujours dit, c'est la matrice. Mais oui. Sans blues, je ne sais pas où on en serait aujourd'hui. Ocean liner gone so far away. Didn't mean to feel so bad. But skeleton has had made me cry. Like to make me die. Wanna lay down and die. Ain't got a nickel. Ain't got a lousy dime. If she don't come back, Lord, I think I'm gonna lose my mind. If she ever come back in, Steve, be another brand new day.
On va écouter la suite de l'intervention de Jean-Christophe Panico. Ah oui, c'est là qu'on apprend que Bob Dylan, ça lui a pas suffi de s'appeler Bob Dylan. Je sais pas si tu savais ça. Il s'appelait aussi Blind Boy Grant.
Hein. Non, je ne savais pas.
Voilà, ça c'était vraiment au tout début. On écoute Jean-Christophe dans cette deuxième intervention.
Ses premiers enregistrements en studio, c'est pas forcément su, mais avant d'enregistrer des disques pour lui, il a joué de l'harmonica sur un disque de Big Joe Williams et pour Victoria Spivey, tu vois. Et il avait un nom d'enregistrement qui était Blind Boy Grant, tu vois. Il a été découvert ensuite par John Hammond, le producteur bien connu. Et donc, dans ses premiers albums, t'avais cette influence blues qui était là, qui était omniprésente dans son jeu de guitare, etc. Mais c'est vrai qu'il a adapté les choses vers un style qu'on appelle le folk, mais qui existait en fait sur la base de la musique populaire américaine qui va de la Carter Family jusqu'à Robert Johnson, et qui l'a synthétisé.
If I don't make it, you know my baby will. down the double E. Don't the sun look good going down over the sea? But don't my gal look fine when she's coming after me?
Progressivement, dans ces albums, tu peux retrouver des blues formels. T'en as, des blues formels. Et là où l'influence blues devient mais incontestable, c'est quand il rentre dans sa fameuse trilogie, qui est sa trilogie géniale. Bring It All Back Home, Highway 61 Revisited, Blonde and Blonde. Faut écouter Highway 61 Revisited, ça s'ouvre sur Tombstone Blues. T'as aussi Takes a Train to Laugh,
A Lot to Cry.
C'est un blues, enfin... Et t'as Mike Bloomfield à la guitare. Et il est accompagné à Newport quand il joue en électrique par le groupe de Mike Bloomfield. Après, il est accompagné par The Band, qui est à l'époque The Hawks, qui était vraiment un groupe de blues. Et partout, t'as de la guitare solo, t'as tout ça. Donc, le blues, il est omniprésent. Alors, ce que change Dylan, c'est cette approche avec ses textes complètement dingues, complètement barrés, sa façon de chanter aussi, qui est extrêmement particulière, son harmonica qui est fou et qui est dingue. Et tout au long de sa carrière, tu vas retrouver des influences blues extrêmement, extrêmement importantes. T'as des blues sur tous ses albums. Et je serais tenté de dire que le virage un peu définitif, j'abrège un peu parce qu'on pourra en parler longtemps, mais il se fait après le Oh Merci de Daniel Lanois, qui était déjà dans une atmosphère New Orleans extrêmement moite. T'as de la slide guitare, t'as Willie Weeks à la guitare, et puis surtout t'as ce basculement énorme qui a démarré la dernière phase de la carrière de Dylan, dans laquelle il est toujours maintenant. C'est l'album Time Out of Mind en 97, produit par Daniel Lanois. Et écoute Time Out of Mind, c'est un album de blues.
Well, my heart's in the Highland. General and fair. Honeysuckle blooming in the wildwood air. Bluebells blazing where the Aberdeen waters flow. When my heart's in the Highland, I'm gonna go there when I feel good enough to go.
Écoute Time Out of Mind, c'est un album de blues du début à la fin, avec des textes extrêmement, ça finit par un Highlands de 17 minutes, The Million Miles, The Cold Iron's Band, et c'est du blues intéressant, moderne, qui fait aucune concession au clin d'œil du genre, tu vois, un truc où c'est toujours la même chose, tiens, voilà, du Chicago Blues voici, non, là c'est du blues à la Dylan, mais il y a du blues partout. Et que ça soit dans Time Out of Mind, mais dans le suivant, Love and Theft, qui est un sommet, dans le suivant, Modern Times, et puis dans tous les albums qui ont suivi, ce sont de fait maintenant, à 70 ou 80% des albums de blues, donc ouais. Dylan, ouais, c'est un artiste qui a transcendé le blues, qui a utilisé le blues et dont le blues est le matériau premier. Ça va encore plus loin que ça. Quand on a un exégète de Dylan et qu'on creuse un peu ses textes, on se rend compte que, et c'est une technique qui lui est un peu reprochée ces dernières années, on va dire ces 20 dernières années, il utilise beaucoup de cut-off, quoi. C'est-à-dire qu'il prend des bouts, des phrases qu'on connaît pour être des phrases de standard de blues, mais de standard de blues des années 20-30, et puis il les copie-colle dans ses chansons où on les retrouve. Il craint pas de s'approprier des standards de blues. Tu vas dans Modern Times, il te fait Someday Baby, qui est Worried Life Blues, Someday Baby Blues, enfin bon, il y va, il y a Rolling and Tumbling, allez, on y va, quoi. Et il te le dit lui-même en interview. Il dit, voilà, vous chantez, il dit, mais moi, si je voulais me faire plaisir, je jouerais avec du Charlie Patton. Voilà. Donc c'est ça Dylan avant, c'est déjà ça Dylan pendant son âge d'or et c'est ça Dylan maintenant. C'est un mec qui dépend par son inspiration, qui a été façonné, qui a été modelé dans le blues et qui a gardé cette inspiration et cette personnalité tout au long de sa carrière, quoi.
Merci maître Jean-Christophe.
Pardon, excuse-moi, j'étais un peu...
Et tout ça, même pendant la période, allez, on va dire, pour simplifier, début 80, sa période qu'on a qualifiée d'un peu mystique, sa période religieuse.
Attends, alors là...
Le blues était là aussi.
Tu veux que je te fasse écouter?
Ouais.
Il faut écouter Slow Train Coming. Écoute Slow Train Coming.
Alors ça, c'est juste avant ça. On est à
la fin de... Slow Train Coming, c'est 1979. Donc sa période religieuse, elle va précisément de 79 à 83-84. Tu vas écouter ça, André? Non, on peut écouter ça. Si t'écoutes Slow Train Coming, c'est bourré de morceaux bluesy, ne serait-ce que le morceau Slow Train Coming de Gotta Serve Somebody.
Gotta
visitor to England or France. You may like to gamble, you might like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls, but you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
Avec Mark Knopfler derrière. Alors t'écoutes, tu écoutes la guitare. La guitare c'est Mark Knopfler. Sauf que ça ressemble pas à Mark Knopfler. Bob Dylan a pris entre quatre mises, il a dit joue Albert King. Et il a joué Albert King. Et si t'écoutes ce Sweet Coming, c'est des morceaux de guitare Albert King. Et Mick Taylor aussi, qui est sur Infidels aussi beaucoup.
Et t'écoutes Infidels, ouais. C'est bourré de blues. Hein.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, avec une espèce de rythme un peu reggae.
Ouais,
Il a la section rythmique de Marley.
Ouais.
Mais c'est particulier quoi.
Mm. Man thinks. 'Cause he rules the earth, he can do with it as he please. And if things don't change soon, he will. For a man has invented his doom. First step was touching the moon. Now there's a woman on my block. She'll just sit there as the night grows still. She'll say, who? Gonna take away his license to kill.
Voilà, avec l'intervention de Laurent Choubra qui était présent également. T'as pas l'air d'accord avec tout, Jacques.
Non, non, quand il dit Mark Knopfler, je suis désolé, il fait du Mark Knopfler, il fait du Dire Straits totalement. D'ailleurs, je pense que Dylan, ça l'a un peu énervé et que sur Infidèle, il est beaucoup moins présent. Je pense que. Non, non, je pense que Mark Knopfler fait du Mark Knopfler et vole parfois, entre guillemets, la vedette à
Dylan.
À Dylan, qui, je crois pas que ça lui ait tellement plu, ça, à vérifier. Mais non, enfin bon, c'est un détail.
Il faut réécouter l'album, c'est tout ça.
En tout cas, c'est un super album, il a raison. Oui. C'est vrai que c'est un album très religieux. Tous les thèmes sont sur. La spiritualité. J'adore ce que dit Jean-Christophe, c'est tout à fait juste et on sent que c'est quelqu'un qui connaît tellement Dylan sur le bout des doigts qu'on n'ose pas le contredire, sauf sur Mark Knopfler qui voilà. Mais sinon, non, mais c'est vraiment quelqu'un, Dylan, qui en moins quand il est en scène, puisque je l'ai vu encore une fois en 2019, donc c'est pas très lointain, fait du blues. C'est tout. Et mais il s'en fout du reste. Et je pense que c'est quelqu'un qui a envie de faire ce qu'il a envie de faire. Et il respecte le blues, il adore le blues. Et puisqu'on parle d'héritage, c'est vraiment ça. Je veux dire, au lieu de dire, oh là, j'ai mon héritage, etc. Non, il n'en parle pas, il le fait.
Mais oui.
Il dit rien, il le fait.
C'est vrai ce que dit Jean-Christophe, en tout cas, à travers cette petite discographie de Bob Dylan, en tout cas des morceaux piochés comme ça au fil de sa carrière. On est même avant l'enregistrement de Freewheeling. À l'époque, il va en parler tout à l'heure dans ses enregistrements d'appartements ou de radio. Enfin, il y a des trucs qui sont qualifiés de bootleg, des choses plus ou moins légales, mais en tout cas qui ressortent maintenant avec des hommages, par exemple à Big Joe Williams, dont il va parler aussi. Et puis, jusque dans les années 2020, on retrouve des blues dans pratiquement chacun des albums de Bob Dylan.
Dylan lui dit lui-même, il dit oui, je pique des trucs, et alors quoi. Enfin, je veux dire, on s'est tous piqué des trucs en musique. Et moi, je trouve que c'est assez honnête de le dire. Gainsbourg a volé énormément de choses. Enfin, tout le monde se vole. J'ai envie de dire que.
C'est même de pire en pire avec le rap maintenant.
Oui, voilà, je pense que les. En plus, avec les samples, etc. Mais en fait, chacun apporte sa façon de faire avec une matrice. Donc, après, voilà, si on aime bien le blues mais qu'on n'aime pas Dylan, je peux le comprendre. Mais si on aime bien Dylan, ça nous fait arriver au blues.
C'est
ça qui est intéressant. Mais c'est qui nous fait aimer des choses que toi, tu connais par cœur le blues.
Non, pas par cœur. Non.
Oh là, quelle modeste.
Je connais quelques petites choses.
Non, mais
tu as tout à fait raison. C'est aussi une belle porte d'entrée au blues, comme peut l'être quelqu'un comme Eric Clapton, comme pouvait l'être les Rolling Stones, même encore maintenant. Enfin, il y a beaucoup de gens qu'on peut interviewer, soit dans Blues Heritage, soit dans My Rockers, qui disent moi je suis arrivé au blues par un tel, et puis Bob Dylan c'est une belle porte d'entrée.
You walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked and you say, who is that man? You try so hard, but you don't understand just what you will say when you get home.
Moi, j'ai un copain qui a 50 ans, un peu plus, mais qui m'a dit je connais pas du tout Dylan.
D'accord.
Donc oui, tu me parles d'un film, mais j'ai pas très envie d'aller le voir, je comprends pas. Voilà. Je connais rien de Dylan. Donc il y a des gens qui sont passés totalement à côté. Hein.
Ouais, mais ce fameux film, il y a pas forcément besoin de beaucoup de clés. On va prendre un autre domaine complètement. Tu n'iras peut-être pas voir un film comme Dune 2 si t'as pas vu le Dune 1. Par exemple, tu vas pas te plonger dans un truc de 3 heures où tu vas rien comprendre du début à la fin. C'est pareil pour la saga Star Wars. Je comprends les gens qui sont pas dedans au départ et qui vont avoir quelques réticences. Mais franchement, alors au-delà de tout ce qui peut s'appeler la culture musicale, rentrer dans ce film qui s'appelle, on va le rappeler, Perfect Unknown, un parfait inconnu, avec Timothée Chalamet dans le rôle principal, c'est quelque chose de d'abord cinématographique, de musical, et c'est un plaisir du début à la fin. Enfin, je me souviens pas très très récemment d'avoir passé 2h20 au cinéma sans m'endormir à un moment donné, et là c'est impossible, même si on n'est pas, à mon avis, fan de musique.
Non, tu as tout à fait raison, on a même envie que ça continue, on a même envie qu'il y ait une suite, ce serait possible d'ailleurs. C'est réalisé par James Mangold, qui avait réalisé l'excellent Walk the Line sur la vie de Johnny Cash, qui était déjà, ça vraiment, j'invite tout le monde à voir ce film Walk the Line, et ensuite aller voir Dylan ou faire l'un et l'autre. C'est vraiment des gens qui ont le respect de l'époque. Il n'y a pas de... Alors on dit oui, mais il n'y a pas forcément de point de vue, est-ce qu'on apprend des choses, mais c'est pas le but. Le but, c'est nous faire du bien, et quelqu'un qui ne connaît pas Dylan, je pense, a envie d'écouter du Dylan.
Un peu. Mais oui. Alors rappelons que ça ne traite que des années 61 à 65, hein, et puis qu'effectivement, un volume 2 n'est pas exclu si un succès au box-office est en révision.
Ouais, c'est intéressant, Marc, parce qu'au moment où, dans ce film, il choisit de prendre une guitare électrique, et donc de renverser la table et les codes, il fallait avoir sacrément de la personnalité pour le faire.
J'adore ce passage où Alain Lomax est fou furieux.
Oui.
Et puis en fait, qu'est-ce qui dirige tout? C'est même pas tellement Bob Dylan sur scène, c'est plutôt le mec qui est sur la table de mixage et qui fait la balance, qui envoie balader tout le monde alors que c'est un simple employé.
Moi, ça, j'ai du mal avec les chapelles en général, enfin je parle pas des chapelles religieuses, mais j'ai du mal avec le mot voilà, ça c'est ça et pas autrement.
Ouais.
Parce qu'en fait, on réduit une musique et on n'arrive pas à la faire évoluer.
Il n'y a pas plus libre que le blues.
Mais voilà, et lui, il ose prendre une guitare électrique et sortir des codes du folk qui à l'époque, alors c'était plus folk que blues. Il ose renverser la table, et ça, ben, peu de gens, parce qu'il aurait pu tout perdre.
Mmh. Au grand dame de Joan Baez d'ailleurs, enfin, on le voit bien dans le film. Alors, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça?
Alors voilà,
j'étais pas à Newport en 65, mais il y a des gens qui y étaient, qui pourront témoigner, et puis d'ailleurs c'est peut-être Jean-Christophe aussi pour nous en parler. Je te propose, Zach, on écoute la suite et la fin de cette interview en direct du salon de Jean-Christophe Panucco.
J'aurais mille choses à vous proposer. Là, c'est Dylan en 62.
Donc il a 21 ans.
Voilà, il vient d'enregistrer son premier disque. Il n'a pas encore enregistré en janvier, il n'a pas encore enregistré Free Willing. Et c'est dans un studio de radio qu'il fait ça. C'est le show de Cynthia Goodin qui recevait des artistes de folk. Donc c'est rigolo parce qu'il chante plein de morceaux qu'il n'a jamais chanté depuis et entrecoupé d'interviews. Et alors là, si tu prends ces morceaux, c'est ses influences de départ. Il commence par un morceau d'Ankouillas. Le deuxième morceau, c'est Fixing to Die de Bukka White. Le troisième morceau, c'est Smokestack Lightning de Lynn Wolf. Et ça continue comme ça. Alors par exemple, et on arrive à la piste 19, c'est moi ça vient. Il a 666 là, tu vois.
Oui, tout comme.
Please don't go back to New Orleans. You know it hurt me so, baby. Please don't go.
Voilà. On avance un peu dans le temps.
On est en plein dedans.
On avance un peu dans le temps. On va en 89, 90, quelque chose comme ça. Il est dans des sessions. Il se tâte un peu. Il est avant, merci. Il sait pas trop quoi faire. Et il fait des sessions avec David Bromberg, qu'on connaît bien, c'est un guitariste de folk. Et là, il te fait ça.
Doctors and nurses make sure you're gonna have a lung. If she gets unruly, thinks she don't want you. If she gets unruly, thinks she don't want you. Take my 3229, break her half in two. And she got that special, but I believe it's supposed to die.
Et si tu prends même ses albums officiels, entre guillemets, là j'en prends un au pif, parce que tu pourrais prendre tous ceux de la dernière, des 30 dernières années, des 25 dernières années. Et par exemple, prends ce très beau, très bel album de Together Through Life, par exemple. Et alors là, pff, c'est une espèce de festival. Ça passerait pas sur une chino, ça toujours ce même disque, on peut... De trucs de toutes les périodes. Alors, après, il y a des morceaux de blues sur tous les disques de Dylan. La question, c'est pas ça vraiment, c'est de se dire que l'inspiration du blues, en fait, elle infuse dans la totalité de son écriture. Et il est inspiré, en fait, par deux trucs, hein. Enfin, par deux trucs, par plein de choses, en réalité, mais le vocabulaire du blues, vraiment, aussi bien musicalement que dans les textes, son côté littérature, beat, Kerouac, etc., etc. C'est resté vraiment, vraiment ses inspirations, ça. Mais le blues, c'est certainement l'influence sur la musique que tu le retrouves avec le plus de constance toute sa vie. Parce qu'il a eu des périodes où il était un peu plus country, il a eu des périodes où il était plus folk song ou Woody Guthrie. Et quand tu l'interroges, t'as des interviews, hein, dans les films, les documentaires qui lui sont consacrés, il te dirait, vos grandes chansons, The Time That's Changing, Blue in the Wind, il dit, oui, je saurais plus écrire ça. Il dit, ça a été un moment, ça a été une inspiration, ça a été une époque, c'est sorti de moi comme ça. Et ici, It's All Right Mime on the Bleeding, Shadows in the Break of je dis comment est-ce que vous voulez que je refasse ça. Et c'est voilà, même quand pour son fameux passage électrique, c'est extrêmement révélateur qu'ils se sont entourés de Mike Bloomfield et du band, quoi. C'est des groupes de blues, hein, à l'époque. Donc voilà, parce que vous insistez lourdement, mais je répète que la question ne se pose pas.
On n'en doutait pas non plus,
hein. La question ne se pose pas.
Voilà, c'était en direct du salon de Jean-Christophe Panicaud, et la réponse c'est que Jacques, la question ne se pose pas. Est-ce que Bob Dylan fait du blues? Mais il en a toujours fait et il en fait toujours.
Oui, il a raison. Mais j'irais même plus loin, je pense que Bob Dylan c'est comme une sorte de synthèse, et je pense que les grands artistes ce sont ceux qui ont digéré beaucoup de courants différents et qui en arrivent à faire leur musique malgré tout. On dit c'est du Dylan, oui d'accord, c'est des influences blues etc, mais l'héritage au final c'est qu'on écoute Bob Dylan, et je pense qu'il aura marqué plusieurs générations parce que justement il a ses influences, comme dit Jean-Christophe, il n'y a aucun débat là-dessus, mais qu'il les a transcendées, et qu'un artiste, encore une fois, Gainsbourg a fait la même chose dans beaucoup de courant, quand les gens sont au-dessus, parce qu'on peut pas dire il est au-dessus pour moi, mais il en fait son truc à lui, et ça c'est absolument incroyable. N'oublions pas qu'il est prix Nobel de littérature, hein, je crois que c'est un des seuls artistes musicaux à l'être.
Tout à fait.
Et je pense que dans Heritage Blues, Bob Dylan c'est peut-être le meilleur invité qu'on ait proposé. C'est absolument incroyable, c'est quelqu'un qui a tout compris très vite, très jeune. Et ses influences, il disait que c'était inspiré aussi, bon bien sûr il a parlé de Kerouac, mais aussi de Rimbaud et d'Apollinaire. Il le dit dans une interview excellente, oui, à Antoine Decaune en 84.
C'est vrai
que on se dit qu'il a tout digéré. Tu vois, on a parlé des Doors, et je pense qu'il n'y a pas photo entre la poésie de Bob Dylan et celle de Jim Morrison, et pourtant j'adore les Doors. Mais je pense que Bob Dylan est très largement au-dessus, qu'il faudra le réécouter. 55 disques, c'est énorme.
Sans compter les bootlegs. Enfin,
oui, sans compter.
Je crois que
que Jean-Christophe, il a à peu près toute la discographie. Oh, en tout cas, il y a encore des albums qui sortent, il y a encore des choses qui viennent des tiroirs, des enregistrements un petit peu pirates ou des choses prises, captées à la radio avant son premier album de 1963.
C'est fou cette production et qui n'est jamais pénible. Enfin, on réécoute n'importe quel album de Dylan, on a du plaisir.
C'est parfois compliqué d'écouter un morceau comme ça isolé et on nous demande, bien, vous faites ça, ça provient de quelle période, c'est enregistré en quelle année.
Oui,
ça, c'est parfois difficile. Pas toujours, il y a des choses qui sont bien marquées au niveau stylistique, mais par exemple, Slow Train Coming, il aurait pu enregistrer ça il y a 10 ans, quoi.
Complètement, complètement. Mais c'est grâce à Mark Knopfler. On revient au débat tout à l'heure. Non, grâce, oui, mais je pense qu'il a eu l'intelligence aussi de. Il sent les choses, Bob Dylan. Et c'est quelqu'un de très malin, très malin.
A Perfect Unknown est un fabuleux film. On en a parlé au cours de numéro de Blues Héritage. Jacques, est-ce que tu conseillerais aux gens qui ne l'ont pas encore vu? Parce que je ne sais pas s'il est encore dans les salles maintenant, mais en tout cas, il va sortir ailleurs.
Oui, en DVD, et puis voilà, il faudra l'acheter absolument. Bah, je trouve qu'on restitue très très bien dans les décors, évidemment, de cette époque des années 60, un peu béni aujourd'hui, mais peut-être qu'avec le recul, on voit les choses un peu différentes. Pourquoi il faut aller le voir? Parce que ça fait du bien au mental, parce que on comprend pourquoi un Dylan comme ça est aujourd'hui adulé, et en même temps, c'est pas quelqu'un qui est, comme tu disais, pas forcément tous les jours sympathique, qui fait des interviews très dures, il répond pas, etc. Il se cache beaucoup, et je pense que ça fait partie de son mystère, et ça c'est son intelligence, mais écoutez du Dylan, vous verrez à quel point. Au début, voilà, peut-être un peu surpris si vous ne connaissez pas du tout. Mais avec ce film, ça donne vraiment envie d'aller écouter du Dylan. Et quel plus bel hommage pour un film qui est un biopic, donner envie d'aller voir, d'aller écouter l'artiste. C'est un peu le but quand même.
Tout à fait.
Meet me in the morning, 56 in Wabasha.
J'ai une dernière question pour toi, Jacques. Si tu devais donner un petit conseil à ce fameux réalisateur pour un numéro 2, qu'est-ce que tu lui dirais de ne pas oublier ou qu'est-ce que tu lui demanderais, tout simplement?
Et là, il a fait la partie la plus intéressante. Mm-hmm. Quelle partie pourrait prendre?
La suite, tout simplement, à partir de 1965.
Oui, mais on connaît moins. Alors, effectivement, parce qu'il y a, comme disait Jean-Christophe, il y a des biographies, mais c'est en anglais. Alors, tout le monde, c'est pas accessible pour ceux qui ne se parlent pas. Ce qu'il faudrait, c'est de comprendre un peu comment il a survécu au punk. Comment il a survécu à la New Wave, comment il a survécu au disco, etc. Parce qu'il a traversé tous ces courants-là et même au rap, il est toujours là. Mm-hmm. C'est ça qui est impressionnant. C'est peut-être ça qu'il faudrait montrer dans une deuxième partie. Comment Bob Dylan a continué à se réinventer. Et ça, c'est absolument un mystère pour moi. Parce qu'à un moment donné, il a pu se dire j'en ai marre de chanter. Mais non, au contraire, il adore ça en plus. Donc, non, c'est très intéressant ce parcours de vie de Bob Dylan. Mais toi, pourquoi tu as aimé le film?
Ah bah moi, j'ai aimé ça parce qu'il y a d'abord une dimension émotionnelle absolument incroyable. Alors après, il y a peut-être aussi quelque chose de personnel, étant donné que c'était pas forcément Bob Dylan, mais plus Joan Baez que j'avais pu écouter, mais lors de ma vraiment toute petite enfance. Hein. Je me souviens que vers 3 ans, on était vers 66, c'était un peu déjà cet âge d'or, et on écoutait du Joan Baez à la maison, entre autres. Il y a un tas de choses comme ça qui ont pu baigner mes oreilles tout petit, tout petit. Et puis, vers 75, est arrivé un album qui s'appelait Hurricane, si je ne m'abuse. Et ça m'avait aussi profondément marqué. J'avais vraiment découvert Dylan seulement à cette époque-là, dans les années 70, et redécouvrir un Dylan jeune, alors bien sûr pas sous les traits du vrai Dylan, mais ça peut se compléter avec le documentaire de Martin Scorsese par exemple. Voilà, cette dimension émotionnelle, et puis la musique qui vous prend au trip, parce que c'est pas une comédie musicale, c'est un film musical, et qui trempe dans la musique du début à la fin, et moi ça m'a... Je pense avoir délivré au moins 2 litres de larmes pendant les 2h20. Hein.
Oui, c'est sûr que c'est bien que tu mettes en avant, parce que si on met en avant le côté historique, bon c'est bien, mais c'est effectivement pour qu'on est aussi touché par la prestation de Timothée Chalamet, parce que je pense que on se dit j'aurais bien aimé être dans cette période-là, rencontrer des Johnny Cash, enfin voilà tous ces gens qui sont autour. Le rôle de Johnny Cash est formidable.
Oui, exactement, tout à fait. Alors voilà, c'est un peu de nostalgie, un peu aussi.
Parce que si on disait qu'on passerait pour des vieux cons qui disent aller voir ce film parce que c'est la nostalgie, une période d'ailleurs où j'étais trop petit pour m'en rendre compte. Donc, mais non, je crois pas que ce soit de la nostalgie, je crois que c'est de l'histoire.
Alors en même temps, des vérités historiques, il y a pas que ça hein, dans le film. Il y a des choses qui sont très très romancées. Si on a lu toutes les biographies de Bob Dylan, comme dit Jean-Christophe, de toute façon c'est impossible d'y retrouver ses petits parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très 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 romancées. Mais c'est pas grave parce que l'esprit est là.
En fait, on dit que les gens qui connaissent Dylan disent qu'il a forgé sa légende lui-même. Donc qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Mais est-ce que c'est important? Est-ce que le mythe, parfois, c'est en musique, c'est plus important que la vérité?
Ça sera le mot de la fin, Jacques. Merci pour ça, merci pour tout. Bob Dylan fait du blues, on va
s'en rendre compte. Merci à toi, Marc Loison.
Mais je t'en prie, avec encore un morceau entier qu'on va se faire avec grand plaisir au cours de cette émission. On a pu écouter pas mal d'extraits, je vous attendrai la liste tout à l'heure.
Outlaw Blues par Bob Dylan, on était en 1965. Voilà, au cours de ce blues héritage, on écoutait énormément de choses. Bob Dylan avec Blowing the Wind, on est en 1963. Like a Rolling Stone, deux ans plus tard, avec ensuite la version de Timothée Chalamet. Puis Joan Baez pour Delbert for Fortune. Et ensuite la version de Monica Barbaro dans le A Complete Unknown Original Motion Picture Soundtrack. Big Bill Morganfield avec Lost Without Love. Et puis Bob Dylan, Bob Dylan's Blues en 63. Roared Blues dans les studios Hot Tech de 1962. Make Me a Pallet on Your Floor sur le Ultra Rare Track 1961-62. See That My Grave Is Kept Clean, on est en 62. Également la même année, Fixing to Die. Et puis ensuite Timothée Chalamet pour Song to Woody, Woody Guthrie lui-même pour This Land Is Your Land en 1944. Puis Bob Dylan à nouveau pour San Francisco Bay Blues en 61. It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry la même année. Highlands en 1997, Summer Days en 2001, Colossal of Somebody en 1979, License to Kill en 83, Ballad of a Thin Man en 65, Maggie's Farm Live in Newport 1965. 1965, Baby Please Don't Go dans Man on the Street en 1962, 3220 Blues dans The Bootlegger Series Volume 8 1989-2006, Jolene pour Together Through Life, on est en 2009, sur le même album il y avait également Beyond Here Lies Nothing, et puis Meet Me in the Morning sur Blood on the Tracks, ainsi que Outlaw Blues qu'on vient d'entendre sur Bringing It All Back Home en 1965, et actuellement Buckets of Rain, toujours extrait de Blood on the Tracks. On reviendra sur cet album dès la semaine prochaine.
C'était le sixième numéro de Blues Héritage consacré à Bob Dylan avec tout un tas d'extraits que je vous engage à aller voir sur la playlist, bien sûr, sur le site internet de l'émission bluesradio.fr. Les Incontournables. Oui, Les Incontournables avec Jean Kenyek. Aujourd'hui, il s'agit de Muddy Waters, album Father and Sons chez Chess Records. Voici Blow, Wind, Blow.
Get out with another guy. Yeah, don't you sound look lonesome, shedding down behind the tree. Yeah, don't you sound look so lonesome, shedding down behind the tree. Well, don't your house look so lonesome when your baby pack up to leave. Back to me. Well, blow wind, blow my baby back to me. Well, you know if I don't soon find my heart gonna be in the mirror.
Blow, extrait de cet album Fathers and Sons, sorti en 69 chez Chess Records, avec bien sûr Muddy Waters, guitare et chant, Otis Spann au piano, Michael Bloomfield à la guitare, Paul Butterfield à l'harmonica, Donald Duck Dunn à la basse et Sam Lay à la batterie. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième heure de ce 1272e Sweet Home Chicago et notre invité Rod Barthé. À tout de suite. Come on.